Bonjour, M. Beaumont.
Salut, Martin.
M. Beaumont, mis à part votre bon travail à la radio avec votre bon programme de Week-end Extra, les samedis et dimanches, vous avez eu quelques sorties?
Oui, écoute, samedi, je suis allé faire un tour à Lac Mégantic. J'ai fait un petit aller-retour à Lac Mégantic, puis c'est là que je me suis rendu compte qu'on était, que j'ai dit 11, je m'exclus de ça. Et qu'il y avait une bonne gang d'automobilistes qui n'avaient pas encore le pneu d'hiver, puis qu'ils l'ont appris à la dure cette soirée-là.
Mm-hmm.
Parce que, tu sais, on a eu des précipitations sur dans notre coin, mais Mégantic, c'était en quantité un petit peu plus abondante que ce qu'on a connu ici. Là, puis les chaussées étaient épouvantablement glissantes. Je te donne la preuve, la route 108 a été fermée pendant un bout de temps. Dans le secteur de Gould, parce que ça a été. Il y avait un camion semi-remorque qui avait pris juste avant le champ. Il avait pris le champ carrément, là, juste avant une côte. C'était de la grosse gadoue. Là, ça roulait pas très vite. Tu voyais ceux qui avaient des pneus d'été, là, parce que ça, c'était du 30-40 km/h tout au plus pour eux autres pour être sûr de ne pas prendre le champ. Là. Donc, c'est des conditions qui étaient quand même pas faciles. Mais c'était pas tant de ça que je voulais te parler, mais que du pourquoi que j'ai été à la Mégantic. Parce que, je sais pas si tu as vu les différents articles qui parlent, entre autres, des médias locaux qui en arrachent. T'sais, on se le cachera pas, là. L'information est extrêmement difficile. L'information locale est traversée par une crise sans précédent. Ça a toujours été plus difficile, faut le dire. Mais depuis quelques années, là, puis je te dirais que ça s'est accentué probablement à vitesse grand V depuis 2-3 ans. C'est pas évident. Puis tu sais, quand tu décides de faire de l'information régionale, comme Cogeco a décidé de le faire avec le 107.7, comme Capital Média le fait avec la Tribune, comme TVA le fait avec TVA Sherbrooke, etc., il y a des impératifs de coûts qui sont importants. Puis la rentabilité de ces entreprises-là est plus que jamais difficile, voire quasiment impossible. Tu sais, je veux dire, tu vas économiser, tu vas faire des échelles. Sur des échelles de coûts, tu vas réussir, des grands groupes, par exemple, je prends Cogeco, TVA, etc., ils vont réussir à aller économiser en faisant de l'administration qui va être un peu plus à distance, plus centralisée. Mais faire de l'information, ça coûte cher. Puis la preuve, c'est que tu vois, il y a une espèce de cri qui est lancé beaucoup par les journaux, là, je te dirais surtout, qui, eux, sont dans une crise sans précédent. Puis, dans le fond, ils essaient d'interpeller les gouvernements en disant, écoutez, moi, je ne suis pas un fan là, de l'intervention étatique, si tu veux, pour la survie des journaux, mais c'est dur de faire de l'information locale et de proximité. Puis pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, c'est que en fin de semaine, paradoxalement à tout ça, on commémorait les 50 ans de la radio locale à Lac-Mégantic. Puis moi, c'est là que j'ai commencé ma carrière. Puis c'est le genre d'événement. Écoute, là, j'ai vu des il y avait beaucoup de gens quand même qui étaient rassemblés là. On avait invité beaucoup d'employés, d'anciens employés. Et à différence depuis quelques années, ce n'est plus une propriété entièrement locale. C'est un groupe du Québec qui a acheté ça, qui en est propriétaire et qui réussit finalement. C'est probablement pour ça que la radio de Lac-Mégantic peut continuer de survivre parce qu'il y a des intérêts au-delà d'une gestion locale à peu d'employés. Qui réussit à passer au travers des temps comme ceux-là. Mais ils ont fait un parallèle, puis je trouvais ça intéressant parce que les députés étaient là, puis la mairesse était là aussi. Puis on disait, il y a des gens de la communauté qui disaient, tu sais, quand ils sont venus 2013, là, puis le 107.7 a fait une bonne job, puis les médias nationaux, et on était là, puis ça a fait le travail. Mais quand à 22h puis 23h, les bulletins de nouvelles étaient finis, là, la seule place où les gens de la place pouvaient se retourner pour avoir des messages d'intérêt public, là, c'est leur radio locale.
Exact.
Puis c'est comme ça, t'es un issue du t'es un produit toi-même, Martin, de la radio locale.
Oui.
T'as grandi, t'as fait tes marques à Rivière-du-Loup dans ton patelin. T'es à Sherbrooke maintenant. Moi, j'ai commencé à Lac-Mégantic. Puis, tu sais, je regardais dans les visages qui étaient là, ça a donné des sens à des gars comme moi. Gérald Filion était là, journaliste économique à RDI.
Mm-hmm.
Lino Chouinard, qui aime Salut Bonjour, c'est des gars qui sont issus de la radio de leur patelin, finalement. Puis c'est pour ça que je tiens à le dire, parce que le 107.7, c'est la même chose pour Sherbrooke. C'est l'endroit où vous allez... S'il arrive de quoi, tu peux te retourner. Puis tu sais que tu vas avoir des gens qui vont être là puis qui vont te donner un service. Puis c'est drôle, hein, parce que alors que je pense pas que c'est un sujet qui... quand je parlais tantôt d'information locale puis qu'il y a du cri du cœur qui est lancé par plusieurs médias locaux, on regarde ça un peu d'un œil désintéressé, je pense, pour monsieur, madame, tout le monde. Ça nous touche pas, c'est pas notre industrie.
Mm-hmm.
Quand ça va mal, par exemple, puis quand tu veux te retourner, puis quand tu as quelque chose à faire parler, ben c'est quand tu vas appeler dans un média de Montréal pour couvrir une conférence de presse locale. Là,
bonne chance.
C'est un média de Montréal qui vont se déplacer. Mm. Ça va être tes médias locaux. Mm. Puis c'est eux autres qui vont te parler s'il arrive de quoi de gros. Quand Neptune a sauté, là, c'est pas la presse nationale qui est venue s'en occuper. C'est les médias locaux qui en ont parlé. C'est toi qui as tenu les ondes pendant des heures et des heures, puis c'est toute l'équipe qui s'est déployée. Puis c'est pour ça que c'est important, puis c'est pour ça que je voulais le dire.
Oui, oui, oui. Ouais. L'importance de la proximité, de la couleur locale et régionale, tous médias confondus, ça, il va toujours falloir se le rappeler que ça a son Martin, importance.
Oui. Puis Martin, je tiens à le rementionner parce que quand j'ai quitté le 177, je l'avais dans mon mot quand j'ai quitté parce que je trouve que des fois, dans les instances locales, au-delà des décideurs politiques qui le savent très bien, là, puis ils s'en rendent compte, puis des fois, c'est agaçant d'avoir des médias comme le 177 d'Impact qui posent des questions puis qui ne sont pas toujours d'une complaisance non plus envers ce que tu fais. Mais il y a des fois, dans certaines instances, puis je l'ai entendu aussi, il y a un mépris de l'information régionale parce qu'on a l'impression que c'est du média de chat et de chien écrasé. Dans le fond, que ça ne parle jamais rien d'important. Alors que ça veut dire que, dans le fond, tout ce qui touche ta communauté autour de toi n'a aucune importance, à part toi, peut-être, le message un jour que tu auras véhiculé. Puis ça, moi, je trouve ça triste quand j'entends des affaires de même. Ça me touche, puis j'essaie d'en être le défenseur le plus possible.
Il y a une élection qui retient l'attention sur la scène mondiale, c'est celle du Brésil.
Oui, puis tu sais, ça va faire un paradoxe parce que je vais te parler d'élection dans un autre pays, mais tu sais, on va quand même, notre vie ne s'arrête pas à la région limitrophe de l'Estrie, là, quand même. Puis j'ai regardé ça avec intérêt. Martin, c'est assez hallucinant ce qui s'est passé hier, qui était écrit dans le ciel là, en passant. Là. Il n'y a aucune surprise hier par la victoire de hier Bolsonaro, là, qui a gagné au deuxième tour des élections brésiliennes.
Mm.
Ce gars-là, qui a à peu près pas fait de campagne, hein. Il a été poignardé en plein milieu de la campagne électorale dans un rassemblement populaire et il a été mis au carreau parce qu'écoute, il a passé proche de laisser sa peau quand même. Là. Et il a à peu près pas fait de campagne, mais cet événement-là a galvanisé sa popularité. Le Brésil est gangréné de scandales de corruption depuis des années.
Oui.
Il y a au moins deux présidents, à ma connaissance, qui se sont retrouvés derrière les barreaux à cause de la corruption. Quand il y a eu les Jeux olympiques, la présidente n'était même pas là parce qu'elle était elle-même sortie du pouvoir à cause de la corruption. Ça va mal, tu sais. Puis c'est un pays qui a eu une récession épouvantable dans les trois dernières années. Ça commence à se replacer tranquillement, pas vite.
Mais qui, ironiquement, a des richesses assez extraordinaires, là.
Ah oui, puis effectivement, puis c'était un pays qui, à venir jusqu'à il y a tout récemment, était vu comme un de ceux les plus... On parlait souvent du BRIC, là, on parlait du Brésil, de l'Inde et de la Chine, les pays émergents hyper puissants, très populeux. Mais c'est un pays aussi qui est miné par la criminalité. Mais je reviens au candidat qui a gagné, Bolsonaro. Quand on dit de l'extrême droite, là, puis je ne me cacherai pas, moi je ne suis pas un fan de Donald Trump, mais il va dire une affaire, là. Ceux qui font une comparaison de Donald Trump et Bolsonaro, vous êtes dans le champ à peu près. Là. Bolsonaro, là, ça n'a même pas de commune mesure de comparaison avec Donald Trump. Le gars a quand même dit, puis je te cite là, publiquement, c'est pas une invention, là, c'est sur tape ce qu'il dit. Là. Il dit un jour que lui refuse que des homosexuels visitent sa maison parce que ça va faire baisser la valeur. Il dit qu'il aimerait mieux voir son fils mort dans un accident que d'apprendre qu'il est gay. C'est le gars dit ça, parlait de son propre enfant. Il dit à une députée, elle est devant la télévision dans un échange, il dit « Tu mérites même pas que je te viole. » Et ensuite, il va déclarer qu'il lui se voit comme le miroir des trois anciens dictateurs qui étaient là à la tête du Brésil avant la reprise de démocratie. Une démocratie qui n'est pas vieille, Martin, 85.
Mm-hmm.
Puis, tu as eu trois dictateurs sur une passe d'à peu près d'un petit peu moins de 20 ans qui ont été là. Puis lui se voit comme étant, il est nostalgique de ça en disant, tu sais, c'était pas grave ce qu'ils ont fait. L'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'au lieu de tuer les gens comme Pinochet faisait, ils ont juste torturé. Il y a eu 50 000 arrestations arbitraires qui ont été faites. Pis ça, c'est une commission d'enquête qui a été faite localement. Là.
Ouais.
50 000 arrestations arbitraires faites pendant cette période-là où des gens qui s'opposaient au régime local étaient soit emprisonnés, 10 000 ont été forcés de s'exiler. Mm. Et on compte, là, sur les chiffres de torture, on s'entend pas trop si c'est des centaines ou des milliers qui ont été torturés, qui ont simplement disparu de la map parce que leur seul crime, c'était de s'opposer au dictateur en place. Mm. Puis ce gars-là en parle avec nostalgie. Dilma Rousseff, qui était l'ancienne présidente, l'avait dénoncé publiquement. Mais tu vois comment ce pays est un peu en perdition politique.
Mais
quand même ouais. Ce gars-là au pouvoir.
Mais le pire, mais c'est ouais, mais c'est encore là, Mathieu, c'est toujours le vote contre qui va favoriser quelqu'un, peu importe ce qu'il est ou ouais. Ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Et tu vois, parmi les manchettes, moi, que je retenais sur cette élection, entre autres, Le Monde, journal français, qui dit que Bolsonaro, c'est la revanche du Brésilien moyen. Vois-tu?
Oui, mais sais-tu, puis écoute, le hasard a fait dans la vie que j'ai rencontré quelqu'un du Brésil, puis avec qui j'ai gardé contact, puis à qui, j'allais prendre un peu son pouls, qui a immigré au Canada il n'y a pas si longtemps. Puis la personne me disait, elle dit, tout le monde le sait que ça n'a pas d'allure, qu'il n'y a pas d'allure. Mais malheureusement, ceux qui représentaient l'opposition la plus sérieuse à lui, c'est ceux qui ont amené les plus gros scandales de corruption.
Ben,
donc, il n'y avait plus aucune légitimité.
Ouais.
La personne me disait, c'est une des raisons pour laquelle elle a quitté le pays. Elle dit, moi, j'ai un problème qui, quand je quitte une carrière à 30 ans, que je me sens incapable de sortir de chez moi après 8 heures le soir, de peur de me faire descendre. Pour moi, il n'y a aucune commune mesure. Tu vois-tu, fait que lui, il a appuyé sur ces boutons-là.
Ben oui.
Puis il espère que ça l'a porté au pouvoir. Mm. Et il y a quelque chose de moi, ouais. Je trouve préoccupant là-dedans. Là, quand tu vois des discours comme ceux-là, là, moi, de la dictature, j'en veux pas.
Ouais, on verra pour la suite. Merci, Mathieu.
Salut.
À demain.